Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour une chronique verte un peu spéciale, puisque nous sommes partis en campagne avec Joseph jusqu'à Tarbes pour atterrir donc dans une magnifique association qui s'appelle Densité. Leïla nous présentera cette association. Et parce que c'est l'occasion de ce mois de l'économie sociale et solidaire, on a déjà parlé au travers de nos émissions de l'économie sociale et solidaire, mais on souhaitait vraiment mettre la lumière sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire en Bigorre et de répondre ensemble à une belle question qui est l'économie autrement. Est-ce possible en Bigorre? Et donc d'abord, merci Leïla de nous accueillir puisque nous sommes chez vous. La densité, peut-être deux mots sur densité justement. Et puis puisque vous coprésidez également le pôle économie sociale et solidaire de la Bigorre, nous dire deux mots du pôle économie sociale et solidaire de la Bigorre.
Merci Benoît. Alors d'abord, je suis ravie de, une fois de plus de recevoir ici le pôle ESS 65. C'est une structure densité finalement qui appartient à tout le monde et c'est aussi autant chez eux que chez moi, c'est ce que je disais ce matin à Benoît, vous êtes ici chez vous aussi. Et c'est ce qui marque aussi notre structure, c'est la présence de l'humain sous forme de danse, mais en soi c'est juste une forme qui permet le mieux vivre ensemble, la mixité sociale, etc. etc. C'est des termes et des valeurs qui représentent densité aujourd'hui. Par rapport à l'ESS, juste un mot ou deux, c'est beaucoup de sémantique. On peut parler de gouvernance partagée, d'utilité sociale, de coopération. Mais l'idée, quand même, c'est de mettre en place tout ça. C'est très joli d'avoir des mots, mais il faut aussi être en conformité, il faut être congruent, c'est-à-dire en alignement avec ce qu'on fait et ce qu'on est. Alors, c'est facile d'utiliser ces termes à tout va, mais l'important pour moi, en tout cas, c'est de le faire. Voilà. L'ESS 65 met en relation les acteurs. Alors j'avais préparé que le nombre que nous étions aujourd'hui en attestait, et c'est effectivement le cas. Mais les initiatives se rencontrent et se reconnaissent et s'enrichissent mutuellement. Le pôle aide aussi à la visibilité des structures qui souvent travaillent quand même dans l'ombre. Ça leur permet parfois de franchir un cap. Ce qui fait aussi la force du pôle ESS, c'est sa capacité à relier les mondes qui ne se parlent pas toujours, les associations et les collectivités, les jeunes et les moins jeunes, etc., etc., les entrepreneurs et les habitants. Cette mise en réseau donne de la puissance à l'ESS, je trouve, dans notre département. Et ensuite, il y a un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les ruptures de tout ordre aujourd'hui. Sociale, économique, environnementale. Et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, doit être et déjà de fait un outil politique, un outil qui devrait être davantage mobilisé pour lutter contre toutes les formes d'obscurantisme et pour défendre une société fondée sur la solidarité et la clarté de ses valeurs. Ça me tient profondément à cœur parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas simple. Donc on est aussi là, nous, dans le pôle ESS 65, pour ces raisons-là. C'est enfin une économie utile parce qu'elle répond à des besoins concrets, utile parce qu'elle crée de l'emploi où il en manque, utile parce qu'elle redonne confiance à des personnes et du souffle à des territoires, mais c'est aussi une économie qui, malheureusement, manque encore de reconnaissance et d'accompagnement. Tout comme nous le faisons aujourd'hui, nous travaillons avec, c'était aussi mon introduction, avec un mot d'ordre, donner du sens à notre engagement.
Merci Leïla, merci infiniment de nous recevoir dans ce magnifique bâtiment de densité. Alors pour nos auditeurs, densité c'est quand même un lieu vraiment emblématique, hein, un lieu où la culture a trouvé pleinement sa place au cœur de la cité. Et c'est avec vous, justement, que cette culture rayonne non seulement à Tarbes, mais jusqu'au bout du monde, entre guillemets, au travers des spectacles que vous entreprenez. Et surtout, vous êtes un acteur très important du lien social. Alors effectivement, le pôle ESS Bigorre, comme nous l'a dit Leïla, il fédère les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire pour développer une économie solidaire et souvent innovante, mais surtout attachée et ancrée dans les besoins de la population. Et donc, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui quatre personnes qui marquent un petit peu notre territoire dans leur engagement, dans les actions qu'elles portent. Odile Despère, qui aura l'occasion de se présenter et de parler effectivement de ce qu'elle mène autour de l'alimentation, puisqu'elle préside une association qui s'appelle Femmes Initiative Le Baber 65, on l'a déjà abordé à l'occasion d'une de nos émissions. Odile nous parlera un petit peu de l'alimentation et de toute la situation qu'on peut entreprendre autour de cela. Nous avons aussi Marc Fanlot, qui est donc pour Habitat Humanisme. Il nous parlera d'abord de Habitat Humanisme et puis un petit peu des actions que vous menez sur Tarbes en particulier, au travers d'un dernier projet qu'on dévoilera auprès des auditeurs. On reverra Leïla aussi pour nous parler de la culture sur le territoire. Et puis également Nathalie Minas, que je remercie, qui est pour les petits débrouillards. Hein, donc nos quatre invités. Ces invités, on va vous proposer, chers auditeurs, deux tables rondes. Une première table ronde qui est sur le thème « Manger ». Accueillir et partager autrement. Et donc, pour commencer, autour de cette table ronde, l'idée, c'est de dire que le repas, l'accueil, c'est essentiellement quand même une affaire non seulement de santé, mais aussi de lien. Comment la restauration et l'action sociale deviennent effectivement des lieux aussi d'économie humaine. Et donc, c'est un petit peu la proposition que je voulais vous faire, chers auditeurs. C'est d'abord aller à la rencontre de deux invités. Odile, donc, avec l'association Femmes Initiative Lobadère. Peut-être, Odile, nous présenter cette association dans sa conception et dans ce qu'elle rayonne aujourd'hui sur le territoire.
Oui, l'association existe depuis maintenant 27 ans, bientôt 28 ans. Donc, elle a été créée pour deux objectifs complémentaires, on va dire. Le premier, le plus important, c'est donner de l'emploi durable à des femmes qui ont du mal à s'insérer socialement et professionnellement. Et le deuxième objectif, c'est de créer du lien social, en particulier au niveau du quartier, et d'apporter une plus-value sociale sur le quartier sur lequel nous sommes situés. Donc, pour atteindre ces objectifs, notre outil de travail, c'est des emplois autour de l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est non seulement quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne de tout le monde, entre autres des femmes, mais aussi un lieu de rencontre. On mange ensemble. La plupart du temps. Et quand on mange ensemble, on échange. Voilà. Donc l'alimentation n'a pas été choisie par hasard. L'alimentation, c'est quelque chose qui est un outil simplement pour nous, mais qui fait vivre économiquement l'association et qui nous permet de payer des salaires, ce qui est loin d'être négligeable. Comme nous avons fait le choix d'emplois durables pour les salariés, ce sont des emplois qui n'ont plus d'aide, comme on peut avoir au départ de certains contrats. Là, maintenant, c'est terminé. Les salariés sont en contrat à durée indéterminée. C'est un choix politique par rapport à l'autonomie des femmes et entre autres à l'autonomie économique. C'est-à-dire que nous considérons que les femmes ne peuvent pas avoir un vrai projet personnel de vie si elles n'ont pas une autonomie économique, c'est-à-dire un compte en banque à leur nom et un salaire qui tombe sur leur compte en banque. Ce qui leur permet de faire des choix de vie personnelle de toutes sortes. Je vous laisse imaginer les différents choix qui peuvent être faits. Et donc, c'est vraiment ça. Notre outil de travail, c'est de l'emploi durable pour les femmes. Par ailleurs, le lien social, très important, parce qu'il ne suffit pas de gagner sa vie. Il faut aussi être inséré dans la société et surtout s'y donner du pouvoir. Pas être consommateur, mais se donner du pouvoir en tant que citoyen, citoyenne. De faire des choix, de proposer, de voter, bien sûr, mais aussi dans sa vie quotidienne, d'avoir des engagements. Et donc, Phil, c'est ça aussi. C'est donner à nos salariés et à tous ceux qui fréquentent l'association des moyens de se sentir acteurs de la société et pas seulement consommateurs.
Alors, on dit juste une petite question par rapport justement à cette alimentation. Au-delà du lien social, c'est une alimentation durable que vous proposez au sein du restaurant. Vous travaillez cette question également ?
Tout à fait, tout à fait. Donc, d'abord, on fait tout sur place, hein, bien sûr. Hein, tout est fabriqué, j'allais dire comme à la maison. C'est un peu un lieu commun, mais c'est vraiment ça. Et si vous venez manger à Phil, vous verrez qu'on se sent comme à la maison dans ce qu'il y a dans l'assiette. Et au niveau des choix, des achats, nous nous efforçons d'aller vers le local. Alors les produits de saison, bien sûr. Mmh. Après, il y a des choix économiques parce que tout le monde sait que les produits de qualité sont plus chers et que nous sommes dans une réalité économique très contraignante. Mmh. Hein, très contraignante. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous cherchons à développer de nouveaux services autour de l'alimentation pour augmenter notre chiffre d'affaires et pouvoir consolider notre association.
Alors peut-être, Odile, pour nos auditeurs, juste une adresse, un lieu où justement venir vous rencontrer, venir manger.
Alors, une adresse, c'est 5 rue de la Corse à Tarbes. Le site, c'est Phil65, site internet. Auquel vous pouvez trouver toutes les informations.
C'est ouvert toute la semaine, tous les midis.
C'est ouvert toute la semaine à midi, pas le soir pour le moment, bien qu'il y ait des projets en cours. D'accord. Et pas le week-end, sauf pour des commandes précises auxquelles nous répondons. Voilà, bien sûr.
Moi, chers auditeurs, je vais manger régulièrement, entre guillemets, chez vous. Mais ce que je peux souligner quand même, c'est que, comme vous le disiez, Odile, c'est aussi à chaque fois un moment de rencontre. Mmh. À la fois avec les gens qui sont derrière les fourneaux, les gens qui sont au service, les gens qui partagent dans la salle. Et effectivement, c'est vraiment un endroit où se crée du lien, où on vit la rencontre.
Bah, l'activité est organisée pour ça. Voilà. J'allais dire même le lieu géographique. C'est-à-dire que quand on entre dans la salle de restauration, mais on entre aussi visuellement et auditivement dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on n'y rentre pas physiquement, mais on est en lien direct avec les salariés.
Même l'odeur.
L'odeur aussi, bien sûr, oui. Et puis, le service est assuré par les salariés à tour de rôle. Enfin bon, c'est aussi un moment de rencontre. Et la salle s'efforce en tout cas d'être conviviale en termes de rencontre entre les personnes qui viennent manger, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui peuvent se retrouver assis à la même table ou autre. Ou voilà, on dit bah, viens manger avec nous, ou si tu es tout seul, ne mange pas tout seul, viens manger avec nous. Alors, donc c'est aussi un lieu de rencontre.
Juste pour terminer sur cette présentation et cette approche de l'alimentation, peut-être se poser la question, quel défi au quotidien pour Phil 65 aujourd'hui ?
Alors le défi, il est économique, ça c'est clair, c'est difficile de contourner ça. Alors nous avons quand même, je dirais pas des clients, mais des partenaires, on peut dire que les personnes qui nous font travailler sont souvent des personnes justement qui viennent pour faire vivre Phil parce qu'elles connaissent les salariés et qu'elles veulent participer à leur emploi. Donc ça c'est, mais il faut développer encore notre chiffre d'affaires, c'est notre défi quotidien effectivement.
Alors voilà, chers auditeurs, si vous cherchez un lieu où on mange bien, on mange pour pas cher. Et si un lieu où on crée du lien, on crée de vraies rencontres, ben voilà. Et puis soutenir aussi l'association, ben allez manger Phil 65. Je pense que ce sera.
Vous y serez accueillis avec toujours le sourire, voilà. Ça je vous le garantis.
Merci beaucoup Odile Desper, donc présidente de l'association Femmes Initiative Lobadère 65. Je suis aussi, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Marc Fonlot pour l'association Habitat Humanisme. Marc, je vais peut-être vous laisser simplement présenter cette association. Et puis, ce qu'on voulait mettre un petit peu la lumière de cette journée, c'était donc la dernière réalisation sur Tarbes pour Habitat Humanisme, qui est donc Cantadour, mais vous allez nous en dire plus.
Bonjour, Marc, bénévole au sein de l'association Habitat Humanisme. Habitat Humanisme a été créé au niveau national en 1985 par Bernard Devers à Lyon. C'est un tissu d'antennes associatives de 59 associations qui est sur 87 départements à l'heure actuelle en France. Et l'objectif principal de l'association, c'est de resocialiser les gens en difficulté, en grande précarité, en leur fournissant un logement décent. Le trépied sur lequel s'appuie l'asso, c'est se loger, accompagner et créer du lien. Il est aussi à noter que Bernard Devers, par Habitat Humanisme, est un des pionniers de l'épargne solidaire en France. Ensuite, Habitat Humanisme Pyrénées-Adour, c'est l'antenne locale qui est actuellement présente sur 3 départements, le 65, le 64 et le 40. Nous sommes actuellement un peu moins de 40 bénévoles. Il y a 4 salariés et 48 logements.
Marc, il y a quelques mois, on a pu en parler une des chroniques vertes, mais on en a parlé aussi dans la presse. Vous avez inauguré un concept nouveau pour Tarbes, sous l'appellation Cantadour, habitat intergénérationnel. Peut-être nous dire à la fois pourquoi ce concept et comment vit ce concept aujourd'hui à Tarbes.
Alors, ce concept a démarré il y a maintenant un an. Cantadour fait partie des 2 dernières résidences que nous avons ouvertes sur Tarbes. Donc, il y a l'Accordé et Cantadour. Cantadour, donc, résidence intergénérationnelle, qui est destinée essentiellement à reloger, encore une fois, déjà en grande précarité et en difficulté sociale, mais dont l'objectif est de créer du lien par cette résidence. Donc, nous logeons des gens qui sont âgés, des gens qui sont jeunes, des gens dans un âge milieu, et par une gestion au quotidien de cet âge et par demandant aussi et en obtenant, on ne demande rien, on obtient que les gens s'impliquent dans la gestion et dans la vie quotidienne de la résidence, et bien on obtient une création de liens qui est assez extraordinaire. Au bout d'un an de vie de cette résidence, on est très content du résultat et cela fonctionne très bien.
Alors, j'avais une petite question, Marc, par rapport à la présentation de cette association, cette belle association, et puis l'inauguration que vous avez faite autour de la résidence intergénérationnelle. D'abord, est-ce que cette résidence est pleine? Est-ce qu'il y a de la place? Non, bien évidemment.
Oui.
C'est plein, c'est complet.
C'est plein, hein, il n'y a pas de place.
Voilà. Et est-ce qu'on peut aller à la rencontre des gens qui sont là-bas? Est-ce qu'il y a des lieux, des espaces ouverts où on peut se rencontrer, on peut dialoguer
Quand vous dites « on », c'est-à-dire si le public peut aller voir,
oui, ou voilà. C'est... Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, des ateliers,
oui,
des animations?
Alors après, au sein de la résidence, des activités collectives ont lieu. Il est évident que la vie de cette résidence passe par l'organisation d'activités collectives. Mmh. Alors, il y a des ateliers, il y a des visites, il y a des... on va au cinéma, on fait des choses collectives. On fait aussi un repas. Toutes les semaines, tous les mercredis soirs, un repas collectif est organisé. Ce sont les résidents qui préparent à manger. Ça fonctionne très bien.
Oui, ma question, c'était est-ce que, effectivement, les bénéficiaires ont la possibilité d'aller vers la cité et d'aller à la rencontre de la cité? Ils ne sont pas cloisonnés dans la résidence.
Ah ben non, les résidents sont des résidents comme les autres. Ils ont le droit de sortir. Et on organise avec eux des sorties régulièrement, de façon à les resocialiser, à créer du lien. Et voilà.
Alors moi, j'avais une question pour vous deux, pour Odile et pour Marc, puisque donc, dans vos témoignages, à la fois remettre du lien à travers l'assiette, et puis remettre du lien à travers le logement, l'hébergement, inévitablement, on passe d'une logique, entre guillemets, de consommation, à chaque fois, à une logique de communauté, finalement, Et aujourd'hui, à votre engagement personnel, à tous les deux, qu'est-ce qui fait que vous avez ce si bel engagement-là? Qu'est-ce qui vous porte dans cet engagement en une minute, à travers de ces deux associations?
Alors, je n'ai même pas besoin d'une minute, je pense. Les salariés. Voilà. Les salariés et de voir ce que ça représente pour elles. Ça suffit à justifier
l'humain.
Tout ce qu'on peut faire par ailleurs.
Marc?
Mais moi, c'est principalement... c'est être utile, en définitive. C'est quand même un sentiment qui est très fort. Quand on voit le résultat, quand on voit les satisfactions des gens autour de nous, c'est peut-être un tantinet égoïste, mais ça fait du bien de se faire du bien. Et se faire du bien en faisant aux autres, c'est pas mal. Voilà, et c'est le sentiment qui me prédomine chez moi.
Merci infiniment à tous les deux. Bon, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez la curiosité, allez à Phil. Allez rencontrer Cantadour, allez voir un petit peu cette belle réalisation qui est faite par Habitat Humanisme. Et puis comme partout, je suppose que vous cherchez des bénévoles. Si jamais il y avait des gens qui s'ennuient quelque peu, qui ont du temps à poser, qui ont une certaine dignité, on peut peut-être les accueillir en tant que bénévoles.
Absolument, nous cherchons des bénévoles en permanence. D'autant plus que bon, il y a des projets en gestation, il y en a un qui va bientôt sortir, un autre qui est quand même assez lourd ailleurs. Donc nous cherchons des bénévoles en permanence, il y a un turnover assez important. Je pense que ça c'est commun à l'ensemble des associations, hein. Des gens qui viennent, des gens qui repartent. Mmh. Et c'est très difficile de maintenir des gens dans le temps. Donc il est évident, oui, on cherche les bénévoles.
Très bien. Donc l'appel est lancé. Donc vous voyez, surtout cette première table ronde, j'ai envie de dire, on peut effectivement allier alimentation et lien social, et puis on peut également accompagner l'humain autrement. C'est aussi le cœur de l'économie sociale et solidaire. Donc merci infiniment pour ces beaux témoignages. Et donc on va continuer avec Nathalie et puis Leïla. Donc Nathalie pour les petits débrouillards et puis Leïla pour densité sur une deuxième table ronde. Où la question posée, c'est se dire qu'une économie vivante, c'est aussi une économie qui crée, qui forme, qui transmet. Et donc, j'avais envie, de chers auditeurs, d'aller à la rencontre de ces deux acteurs qui donnent du sens à la fois à la culture et à l'éducation populaire. Peut-être on va commencer par Nathalie, donc pour l'association Les Petits Débrouillards. Bon, Nathalie, juste vous présenter, nous présenter l'association.
Alors, Les Petits Débrouillards est une association de vulgarisation scientifique. C'est un concept qui s'est fortement implanté en France il y a une quarantaine d'années et qui vient du Québec. Et désormais, Les Petits Débrouillards sont présents sur tout le territoire français, y compris en métropole, mais aussi sur les territoires ultramarins. Et notre objectif à nous, c'est le développement de l'esprit critique. Donc, nous avons choisi de travailler avec l'animation ludique, c'est-à-dire faire avec les personnes en partant du jeu pour pouvoir explorer tout un lot de concepts, les rendre facilement compréhensibles, avec l'idée que ce sont les personnes qui posent des hypothèses, qui font des expériences et qui tirent leurs propres conclusions pour pouvoir à la fin se positionner et prendre une décision. Et nous travaillons sur trois axes, qui sont la transition écologique, qui est quand même l'axe le plus fort de nos activités, mais également sur l'axe numérique, puisque nous avons un médiateur. On est un peu une exception dans les Hautes-Pyrénées avec notre médiateur numérique, qui est un peu le seul en France, puisqu'il a pour mission de travailler à l'accès aux droits pour les personnes. Là, on n'est plus tout à fait sur le jeu, mais on est aussi sur l'acquisition et le développement de compétences pour toutes les personnes. Et un sujet qui se développe fortement pour nous sont tous les sujets qui sont autour de la lutte contre les addictions, la lutte contre les discriminations, pardon. Et on travaille aussi maintenant beaucoup de façon intergénérationnelle.
D'accord. Donc juste une petite question pour nous tous et bien comprendre. Si je suis bénéficiaire, entre guillemets, de vos actions, je suis adhérent ou non. Je paye une prestation,
non.
Tout est gratuit.
Tout est gratuit. D'accord. Ça, c'est un principe de base au Petit Débrouillard, c'est que nous cherchons des financements dans tous les sens pour pouvoir assurer la gratuité à tous les participants.
D'accord. Et le participant, il n'y a pas de critères, tout le monde peut venir.
Oui, complètement. Il faut avoir entre 3 et 103 ans.
Oui, effectivement. Et peut-être un lieu, une adresse sur
Nous
Tarbes.
Sommes situés au sein du quartier Lobadère, donc dans un espace
D'accord.
partagé avec d'autres structures associatives. Et notre adresse est 2 boulevard Garigliano.
D'accord. Donc on peut aller manger à Fil 65 et ensuite aller au
oui,
Petit Débrouillard.
On est au bout de la rue.
Pour passer une bonne journée socialement bien remplie. Merci donc autour de cette présentation avec Nathalie et l'éducation populaire en fait, hein, c'est le
oui,
moteur. Hein.
Complètement.
Donc peut-être deux mots sur justement l'éducation populaire.
Complètement. On fait partie des réseaux de l'éducation populaire parce que nous ne pouvons pas faire sans les personnes. Donc tout part de la personne. Nous sommes là qu'en tant que guide et l'idée c'est vraiment de transmettre en faisant et non pas de faire à la place d'eux. Donc l'idée elle est d'apporter plus une façon de réfléchir qu'un savoir en lui-même pour que la personne puisse acquérir lui-même ce savoir et en tire les conclusions et la place dans la société qu'il souhaite.
Donc là, on voit bien que c'est une économie qui crée et qui transmet, du coup. Hein. On est vraiment dans l'éducation
Complètement.
Populaire.
Complètement.
Merci Nathalie. Je vais me tourner maintenant vers Leïla. Puisque bon, dans cette deuxième table ronde, on parle de création, bien sûr, et on parle de culture. Et là, ici, on est, je rappelle pour nos auditeurs, nous sommes dans Cité, un lieu culturel emblématique Tarbes, et donc avec Leïla Benoui, qui est actuellement la directrice ou l'animatrice, je ne sais pas comment elle se nomme, autour de Densité. Et donc, là encore, entre guillemets, le témoignage, c'était aussi pour voir comment la culture devient actrice aussi du vivre ensemble. Donc, deux mots sur ce que vous proposez à Densité, justement.
Alors, ce qu'on propose à Densité, c'est des ateliers artistiques pour divers habitants et beaucoup de mixité. Et de l'accès à la culture sur les quartiers prioritaires de la ville, mais pas que, beaucoup de mixité avec la ruralité, le centre-ville de Tarbes, etc.
Oui, parce que vous rayonnez au-delà de Tarbes, si j'ai bien compris. Hein, vous
oui, oui, oui. Alors c'est ce qui fait aussi notre force, c'est le fait de pouvoir... on a une compagnie pro qui joue en France et à l'étranger sur des sujets d'actualité. Et en fait, elle ramène aussi son expertise et ses compétences au service du 65.
Donc, pour venir à Densité, il faut être adhérent.
Oui, il faut être adhérent. C'est 15 euros d'adhésion à l'année.
D'accord.
Et après, il y a différents montants en fonction des publics que nous recevons. Mmh. Mais on peut venir à un atelier sportif pour 15 euros d'adhésion à l'année, deux fois par semaine. Et après, il y a tout un programme autour de la danse. Juste avec ces 15 euros, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, Leïla, sur nos territoires, l'importance de la culture, notamment dans ces temps difficiles, ces temps complexes, angoissants que
oui,
nous vivons.
Oui, alors autant ça peut paraître comme secondaire, voilà, et souvent ça paraît secondaire. C'est pas quelque chose qu'on va manger, c'est pas un travail, et pourtant ça apporte tellement pour l'avoir vécu plein de fois que du coup c'est presque pour nous, en tout cas, danseurs, et je pense artistes de manière générale, je vois pas Singh en face, c'est aussi important que de boire ou de manger cet accès à la culture. Et je crois que Sandrine me rejoint complètement là-dessus. Je voudrais aussi en profiter pour remercier ma co-représentante, que je n'ai pas fait ça au départ, ma collègue et ma binôme Sandra Munoz, pour l'organisation de cette journée. C'est plus Densité, mais c'est aussi Densité, c'est un peu tout l'ESS aujourd'hui. Donc voilà, je voulais la remercier pour cette organisation et pour être ma binôme aussi. Merci Sandra.
Et alors, merci à Sandra, donc Sandra Munoz, donc, qui est coprésidente du pôle économie sociale et solidaire de Bigorre et qui est parmi nous hein, dans le public, bien évidemment, parce qu'elle est occupée aussi à accueillir les différents... personnes présentes ici au cœur de Densité et au cœur de l'économie sociale et solidaire. Alors, Leïla, une dernière question, parce que, bon, moi, je lis beaucoup, j'entends beaucoup, j'écoute beaucoup, mais et je vois beaucoup aujourd'hui la difficulté de financer la culture, les difficultés actuelles. Vous savez, on parle d'un budget en France très difficile. Et
j'avais envie
de vous entendre un petit peu sur justement la culture, comment on arrive à trouver un modèle économique un peu alternatif pour continuer à créer, à faire de la création.
La force qu'on a eue, c'est d'avoir un modèle économique assez hybride avec Densité, qui ne repose pas que sur des subventions. On est sur 60% de chiffre d'affaires, avec justement nos ventes de spectacles, de stages, ce qui nous rend aussi indépendants politiquement, ce qui fait notre force, c'est ce qui a fait notre force. Mais c'est vrai qu'en termes de subventions, c'est en baisse, c'est constamment de plus en plus exigeant en termes de demandes, de rendus, alors qu'en parallèle, ça baisse et que l'inflation est grandissante et on l'a subi aussi.
Oui. Tout à fait. Et puis aussi, la culture, c'est aussi un support de transformation. Est-ce qu'on peut penser que la société peut se transformer au travers de la culture, tout comme elle peut se transformer au travers de l'éducation populaire? Là, je m'adresse à toutes les deux, du coup.
Moi, j'en suis pleinement convaincue. voilà, c'est ce qui a fait aujourd'hui aussi mon émancipation personnelle.
Nathalie. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Leïla. Complètement, on peut s'émanciper, puisque... L'idée est de faire autrement et de voir qu'il existe d'autres chemins.
Ouais. Alors, chers auditeurs, On a du public devant nos micros, et donc je vais me tourner justement vers le public et peut-être laisser un spectateur s'exprimer ou témoigner. Je vois par hasard Denis, je vous vois là à côté, Denis de Pond, l'association donc Maïf. Peut-être deux mots sur la Maïf, et puis je sais que vous avez une action, vous êtes remarqué autour du sport avec Sport Planète, et nous dire deux mots peut-être sur cette action.
Avec plaisir. Donc Maïf, bon, vous connaissez, mutuelle qui est engagée dans pas mal de domaines, et notamment à travers cette activité Sport Planète, qui est une action nationale et qui se décline sur les territoires de façon très différente. Tout ce qui concerne la biodiversité, les déchets, l'énergie, la mobilité. Nous, dans le département, on a développé un réseau très fort avec le monde sportif. Donc, on a un peu en priorité choisi l'activité qui concerne à récupérer des vêtements usagés de sport lors de grandes manifestations telles que le Luchon en Netto Trail. Il y a autour de 4000 participants. La fête du sport en famille à Sousse, 6 à 8000 personnes. Et ce week-end arrivant, lors du Lourdes-Tarbes, où il y aura autour de 3000 participants. Le but étant que les gens viennent déposer des vêtements de sport usagés, que nous trions ensuite, lorsqu'ils sont en état, nous les remettons à des structures. Cette année, c'est le lycée Jean Dupuis qui a reçu un lot de vêtements, parce que les profs de PS nous avaient alertés sur la problématique d'équipement sportif pour des lycéens ou des étudiants. Donc il y a eu une remise un peu officielle de ces matériels. Ensuite, une coopération étroite avec Récupaction, qui est une entreprise d'insertion bien connue et qui fait partie de notre pôle ESS. Voilà, en quelques mots, donc notre place dans le monde de l'ESS 65, je la trouve normale. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous y collaborons.
En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle initiative et ça voulait... Je pense que c'est important que nos auditeurs voient effectivement qu'une association comme la Maïf, grosse association, a le souci, effectivement, au travers de ces actions-là, du sport, de la santé et puis des jeunes. Hein, comment les outiller, les équiper, les accompagner. Donc, merci beaucoup, Denis, pour ce témoignage.
Avec plaisir.
On va peut-être continuer, puisque, en fait, vous êtes tous les quatre ici autour de la table et j'avais envie de vous poser cette question. Ou plutôt réagir sur cette remarque, cette observation. Et si la réussite, c'était d'apprendre ensemble à coopérer plutôt que se concurrencer? On va commencer par Nathalie.
forcément, puisque si je parle des petits débrouillards, notre idée, c'est le partage. L'idée n'est pas d'asséner des vérités, de donner des... documents ou des déroulés pédagogiques ou je ne sais, mais l'idée elle est vraiment de découvrir pour acquérir un savoir. Et quand les personnes expérimentent, elles peuvent apporter également aux animateurs et à nous-mêmes tout un lot d'autres choses que l'on n'avait pas vues. Et la construction se fait bien ensemble, on réfléchit ensemble. Et c'est notamment le cas dans les actions intergénérationnelles que nous menons avec l'idée de pouvoir se faire se confronter ou s'enrichir de façon de réfléchir, de façon d'expérimenter pour arriver à quelque chose qui est commun.
Merci beaucoup Nathalie. Alors je vais me tourner vers Odile avec la même phrase. Si la réussite c'était d'apprendre ensemble et coopérer plutôt que se concurrencer dans la restauration.
Oui, en restauration, alors c'est vrai qu'on est a priori dans un domaine économique et de concurrence, la restauration. Hein. Nous, à Phil, on se place vraiment en dehors de ce contexte-là. La coopération, pour nous, se place, je dirais, en interne de l'équipe, puisqu'on a un CA, un conseil d'administration composé de bénévoles, qui sont des personnes qui ont une situation... assez classique dans la société, je dirais. Hein. Des personnes qui ont une vie professionnelle épanouissante, des vies de famille épanouissantes. Et puis, des salariés qui sont souvent loin de ça, justement, dans leur vie personnelle, des mères isolées, des ruptures de toutes sortes, des handicaps à porter aussi. Et la coopération, elle se joue en interne, à fil. Hein, c'est deux mondes qui se rencontrent et qui vraiment n'en font plus qu'un. C'est-à-dire que quand on travaille ensemble, avec les salariés, les bénévoles autour de la table, il n'y a plus aucune différence. Il n'y a plus que des sœurs, quelques frères. De temps en temps, les hommes ne sont pas exclus, loin de là. Au contraire, c'est une richesse, hein, bien sûr, pour nous. Mais voilà, des personnes, des êtres humains qui travaillent ensemble à un projet. Donc la coopération, je dirais que pour Phil, c'est là qu'elle se place principalement.
Merci, Odile.
Après, le pôle ESS quand même, qui est très important, bon, comme pour tous les acteurs de l'ESS.
Merci beaucoup, Odile. Alors, même question, Marc. Et si la réussite, c'était d'apprendre ensemble à coopérer plutôt que se concurrencer?
Ben, coopérer et concurrencer, bon, c'est en parfaite opposition pour moi. Hein. Donc, c'est deux mots qui sont... La coopération dans le terme associatif, c'est essentiel, c'est évident. Hein. On ne peut pas faire d'associatif sans coopération. La coopération, chez nous, au terme, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va se jouer au sein de la résidence intergénérationnelle. Donc, la réussite de ce projet est basée sur la coopération même des membres du projet. Donc, ça, c'est évident qu'on ne peut pas réussir s'il n'y a pas coopération. Et ensuite, la coopération, moi, je la verrai un peu plus au sens large, au sein des différentes associations. Il est évident que l'on pourrait coopérer davantage entre les associations, mutualiser des moyens, parce qu'il est évident qu'il y a redondance de moyens si on prend au sein de chaque asso. Il va y avoir on utilise des mêmes énergies et des mêmes moyens. Donc, c'est dommage de ne pas coopérer, parce que peut-être qu'on peut mutualiser des choses. Et il est évident, donc, pour reprendre le thème de la question, que la réussite sans coopération, ça me paraît quelque chose de très difficile.
Voilà. Oui, d'ailleurs, Marc, c'est une très bonne suggestion. Peut-être que ce sera aussi un axe de travail pour le pôle SS Bigorre, hein, de renforcer un petit peu cette coopération et puis de mutualiser un certain nombre de choses. Je pense que c'est une bonne réflexion, me semble-t-il. Et on va terminer avec Leïla, alors. Même question pour Leïla, donc dans Cité, hein. Et si la réussite, c'était d'apprendre ensemble à coopérer plutôt que se concurrencer?
Alors, du coup, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et que je rejoins, mais pour moi, c'est presque devenu une lutte, en fait, la coopération. C'est une lutte parce qu'on essaie de nous diviser. L'idée de cette coopération, c'est pour moi beaucoup plus même qu'une simple réussite. En fait, c'est une lutte quotidienne de continuer à coopérer. Je le vois sur les associations, justement, où... par manque de financement, on essaie de nous séparer et ça va devenir notre prochain combat, nous tous, de continuer à être ensemble, en fait.
Merci à vous quatre, en tout cas, d'être prêtés au jeu, parce que ce n'était pas facile. Bon, peut-être juste retenir quelques points forts que j'ai entendus au courant de ces 40 minutes. Tout d'abord, ce qui fait votre force, c'est les valeurs que vous partagez, les valeurs communes qui sont les valeurs de l'économie sociale et solidaire, la solidarité, l'ancrage local, la confiance, hein, et puis le rôle de l'humain dans l'action. Bien sûr qu'il y a des freins, hein, inévitablement, sur ce territoire. D'abord, on cherche à être visible et lisible, donc la visibilité, c'est un élément essentiel. C'est aussi un peu pour ça qu'on fait cette émission radio, c'est pour aussi donner un peu de visibilité à ce qui est important pour nous, l'économie sociale et solidaire. Les freins, vous les évoquez tout à l'heure, Leïla, c'est aussi le financement, hein, les aspects financiers, et aussi Odile. Hein. Et puis, la reconnaissance, parce que souvent, on peut souvent entendre, et d'ailleurs, ça avait été un des films qu'avait publié à l'époque le pôle ESS, là, que finalement, l'économie sociale et solidaire, c'était ou pour les bobos, ou pour les gens qui allaient chercher de l'argent, des financements publics, tous azimuts. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout là, on est dans le cœur de l'action, au cœur de la cité, au cœur du territoire, avec des belles actions, avec de l'humain au cœur. Et puis enfin, les alliances, les coopérations, les alliances locales possibles. L'idée, c'est faire réseau, et je crois que si j'ai bien compris, Leïla et Sandra, c'est bien l'idée du pôle ESS de constituer et de faire réseau autour de cette idée de l'économie sociale et solidaire. Hein. Et donc, la question qui avait un petit peu initié notre rencontre d'aujourd'hui, qui était de dire, est-ce que l'économie autrement, c'est possible en Bigorre? Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu un rêve qui peut se réaliser demain en Bigorre. En tout cas, c'est une note d'espérance que je veux poser avec les auditeurs et avec vous, les invités, autour de ce que j'ai pu entendre, ce qu'on a pu partager aujourd'hui. En tout cas, merci à vous quatre. Merci infiniment. Merci aussi à celles et ceux, chers auditeurs, qui nous écoutons. On l'a entendu aujourd'hui, l'économie autrement. Bah, ce n'est pas qu'une utopie, c'est aussi une réalité qui est déjà à l'œuvre ici, en Bigorre. Et donc, on peut voir que bah, à Fil 65, à Densité, Habitat Humanisme, également au Petit Débrouillard et d'un plein d'associations qui rayonnent et qui adhèrent au pôle ESS Bigorre, l'économie devient aussi une histoire de visage et une histoire de confiance. En tout cas, merci à vous, à vous quatre. Merci aussi à Radio Présence de nous avoir donné l'occasion de mettre un peu de lumière dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire sur ce qui se passe en Bigorre, à Tarbes. Merci aussi à Densité de nous avoir accueillis, à Léla, de nous avoir accueillis ici. Et puis, chers auditeurs, on se retrouvera très bientôt pour un prochain plateau. Et je vous souhaite une excellente journée.